arabe moderne, la philosophie arabe est discutée, c'est pas rejeté en bloc avec Averroès, qu'on essaie de concilier, on va voir, alors je vais revenir plusieurs fois là-dessus, géométrie plane et géométrie dans l'espace. L'idée aussi, c'est important, parce que ce sont deux choses qui pourraient sembler antagoniques, mais pas forcément de points communs. Et au sens strict, on peut trouver des points communs, par exemple, on verra justement le nombre d'or, la section d'or, des choses comme ça. Et y a aussi l'idée, hein, on l'a vu avec du christianisme, quelque chose qui permet de mettre les choses en ordre. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée, au Quattrocento, qu'on a les outils théoriques, religieux, philosophiques, esthétiques, pour ordonner le monde, vraiment, et le représenter ordonné. C'est pour ça que je ferai deux chapitres sur l'architecture, parce que la question de l'architecture, c'est aussi un enjeu, puisque c'est construire réellement des bâtiments. Et je dirais ça souvent, mais c'est vrai, c'est que l'architecture, c'est aussi une projection mentale. Vous avez donc aussi quelque chose qui s'instaure de manière très claire, c'est l'idée que l'esprit est capable d'ordonner, d'informer au sens strict, informer, enfin, donner une forme selon des principes théoriques abstraits. C'est-à-dire que la beauté devient un principe théorique, un principe mathématique, la ville aussi peut se concevoir, et ce n'est pas quelque chose, c'est pas une agglomération de hasard, c'est quelque chose qui peut être un projet. Projet, perspective, l'idée de voir loin, avec quels outils on peut voir loin, c'est quelque chose qui est typique de la Renaissance. Hein, mais là aussi, vous verrez, c'est un instant assez court. C'est un instant finalement assez court. On parle de la Renaissance, mais on va voir assez vite, c'est un édifice qui va voler en éclats. Et on verra ça. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Parce que c'est un modèle, hein, classique qui va être repris par la suite assez souvent. Classicisme, néoclassicisme n'arrête pas de se ressourcer à la Renaissance comme si c'était une sorte d'idéal jamais dépassé. De la même manière, là je fais une petite introduction en passant temps, des figures de la Renaissance sont considérées, auraient presque été divinisées, Vinci, Raphaël, Michel-Ange, etc. Voilà, comme si c'était aussi des véritables dieux vivants, des génies. L'idée même de génie artistique, elle est née à cette période. Avant, on ne parle pas du tout de génie artistique. Cette idée aussi qu'un être humain puisse concevoir quelque chose qui vise à la perfection, à l'idéal, c'est aussi culturel. L'idée même de l'artiste comme ingénieur ou génie, c'est celui qui fait naître. Hein, genus en latin, je crois, la vie, le gène, la naissance, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose c'est une représentation mentale. Alors, à propos de perfection, justement, il y a plusieurs formes de la perfection. Et on va revenir cette fois-ci à un autre modèle, mais qui est contemporain des Annonciations. Qui est contemporain des Annonciations de Fra Angelico, c'est cette fameuse peinture-là. Si vous avez regardé la très bonne série Desperate Housewives, vous aviez ça dans le générique. C'est une très bonne série. J'ai trouvé très bien. Et dans le générique, vous avez.
Là.
Oui, c'est arrêté. Ah, oui. Bah ouais, mais depuis que Mike était mort. C'est Mike, oui. Vous avez donc cette peinture qui est de Jan van Eyck. Hein, EYCK, qu'on verra, ça s'appelle le portrait des époux Arnolfini. J'ai laissé le portrait des époux Arnolfini, 1434. Alors, ça, on l'a laissé de façon précise, je vais dire là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et je vais essayer donc de vous le présenter de façon un petit peu. Alors, ça va comme ça? Alors, d'abord, c'est un portrait profane. C'est vraiment. Ces personnes ne sont pas des princes, ni des personnages religieux, ni des personnages mythologiques, ni des personnages héroïques, ni des personnages historiques. Ce sont vraiment des contemporains du peintre et enfin, une riche famille, hein, très riche, on va voir un peu pourquoi, famille de marchands d'origine italienne, mais qui sont en Flandre. Puisque Jan van Eyck est effectivement un peintre flamand. Alors Jan van Eyck n'a pas commencé par faire une peinture une commande comme ça d'un couple. Évidemment, il était déjà connu pour des peintures religieuses qu'on verra plus tard. Hein, on a vu la dernière fois la Vierge au chancelier Rollin, on va en voir d'autres, etc. Donc il était surtout connu pour des peintures religieuses. Mais c'est déjà un signe économique, culturel et esthétique qu'un couple de personnes demande et soit capable aussi de payer un peintre qui vaut, alors une peinture comme ça, il y a peut-être une année de travail pour quelqu'un qui est très réputé. Donc, si vous voulez, c'est une fortune considérable que d'avoir ce tableau, de se payer ce tableau. Ça veut dire effectivement ce sont des gens qui sont, c'est une immense fortune. Une immense fortune, et il faut aussi convaincre le peintre que c'est intéressant. Alors, c'est là aussi où c'est notable, c'est que le peintre accepte et fait ce portrait. Et non seulement il fait ce portrait, mais il signe et on verra qu'il est même présent dans la toile à sa façon. Donc celui-là, vous avez un portrait en fan, c'est nouveau, un portrait de couple ensuite. Hein, et alors, on est typique, c'est typique de ce qui se passe en Flandre au XVe siècle. Cette société commerçante est bourgeoise, hein, avec la naissance des banques, avec, je ne sais pas s'il y a déjà de la spéculation, etc., mais il y a un commerce florissant, vous connaissez tout ça, depuis la Baltique, l'Allemagne, du Nord, les ligues hanséatiques, etc., tout le commerce qui passe par l'eau, par voie de mer, qui s'arrête en Flandre, et puis y compris qui redistribue sur la voie qui va de Flandre jusqu'en Italie, en passant par la Bourgogne, le Sillon rhodanien, etc., tout un arc commerçant extrêmement riche. Hein, toutes les foires de Bourgogne, et les ducs de Flandre sont liés aux ducs de Bourgogne aussi, puisque c'est la France, le territoire français est partagé. Donc vous avez une richesse prodigieuse, commerçante, et qui se trouve dans l'édification des villes, des cités, qui sont, et on n'a pas de pouvoir non plus centralisé, à la différence de l'Angleterre, de la France, ou de l'Italie autour de Rome, du pape ou de Venise, vous avez au contraire en Flandre des cités essentiellement commerçantes d'ailleurs, et qui fonctionnent avec des sortes de... Ben de on voit encore hein, les bourgmestres, ou alors les cités plus ou moins ducales, mais le duc, c'est pas, ce ne sont pas une aristocratie qui est reliée à un prince régnant centralisateur, comme en France ou dans d'autres pays, c'est beaucoup plus dispersé. Et donc... on dit d'ailleurs, certains disent que c'est de là d'ailleurs que viendra le protestantisme, de cette espèce d'autonomie, cette liberté, une certaine naissance de la démocratie, y compris le capitalisme, hein, et une société bourgeoise, peut-être 400 ans avant la Révolution française. Enfin, 300-400 ans avant la Révolution française. Donc, déjà au niveau économique, c'est un pouvoir qui s'affirme. Alors, la peinture en est un témoignage. Alors, ce qui est clair ici, c'est qu'on a vraiment aussi, cette fois-ci, l'homme et la femme, avec une partition et une union. C'est là aussi, vous avez... Il n'y a pas de hiérarchie, il y a une répartition des rôles, on va dire, qui est très claire, et qui est faite de façon discrète. Alors, ce qu'on peut voir de manière très nette, d'abord, c'est quand même une seule pièce. Une seule pièce, et il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de voûte entre l'homme et la femme. Au contraire, hein, il y a beaucoup de choses qui les réunissent. Il y a le lustre qui tourne autour, qui les réunit, qui répartit et qui fait circuler le regard. Il y a le miroir en rond qui les réunit. Il y a la main. Il y a même le petit chien. Hein, et puis, le fait qu'ils sont dans une seule pièce avec le mur du fond et avec des lignes de fuite ici que l'on voit au plafond, que l'on voit sur le lit et qu'on voit sur les fenêtres. Et le point de fuite, alors, c'est un peu plus compliqué, mais le centre de regard est dirigé vers le miroir du fond. Hein. Alors, je reviendrai sur l'union. Par contre, de façon très très claire, si vous divisez en deux verticalement, vous avez un côté gauche masculin où l'homme est essentiellement vêtu de noir ou de sombre, donc essentiellement noir et blanc. Du côté de la fenêtre qui ouvre sur la rue, sur la ville, sur l'activité sociale, il a laissé ses chaussures, ses Birkenstock là.
Non, mais je crois que c'est la dame.
Non, et il pourrait rentrer dans la maison, mais c'est dirigé effectivement vers la sortie. C'est-à-dire que lui est associé au monde social, à la société, à la vie active et économique, où il va tirer sa richesse, etc. Elle, de façon évidente, j'invente pas, c'est très clair, elle est du côté de l'intérieur, du lit, de l'alcôve, des couleurs, du tissu et de certaines formes plus rondes. Donc vous avez une sorte de dissociation, y compris même formelle. Les formes rondes, les couleurs, des matériaux qui sont plus souples et sensibles, tout ce qui est tissu, matériaux, meubles, intérieurs, côté femme, etc. Donc c'est très clair. Et en même temps, ils sont unis. Alors c'est pas le mariage, hein, ce sont les époux. Et ils sont unis parce qu'effectivement, elle tient son ventre, donc elle est enceinte. Et vous avez, et c'est là où c'est assez remarquable, quelque chose qui est très délicat. C'est évidemment, vous connaissez ce miroir, hein, dans lequel vous avez, y compris signature du peintre, Johannes van Eyck Fruit Eyck, 1434. C'est-à-dire que Jean van Eyck était là et il signe. Et il signe de façon manifeste, et pas du tout discret, c'est pas en bas, et autour du miroir. C'est-à-dire que non seulement l'union, elle est faite par l'espace, elle est faite par la répartition par la pièce, par le lustre, par le petit chien, par le fait qu'il se tienne la main, mais y compris par la présence du peintre, qui est une sorte de témoignage, presque comme un acte notarié, si vous voulez, c'est assez drôle, le peintre, quelque part, est donc le témoin de cette union, et il englobe la scène, puisqu'il est devant, et en même temps il est derrière avec le miroir, donc c'est comme vous me citez, il est de tous les côtés. Et vous allez me dire, c'est assez étrange, c'est un mari. Et où est la religion dans ce mariage? Eh bien, là aussi, elle est très discrète. Si vous regardez de près, dans le miroir, ce sont les scènes de la Passion, et c'est un chemin de croix. C'est-à-dire que vous avez quand même l'idée que ce mariage, ces époux, ne sont pas du tout des religieux, ne sont pas des princes, etc. Mais leur union, très subtilement, se fait dans le miroir, dans une forme ronde globale. Alors on pourrait dire aussi que là c'est la conciliation du cercle et de la perspective géométrique. Si on comptait ce qui était circulaire, c'était du côté féminin, ce qui était plutôt orthogonal côté masculin. Ici vous avez une sorte de synthèse dans ce miroir convexe. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très subtil dans cette idée-là. Alors il y a autre chose qui unifie tout cela, c'est la lumière. La lumière qui est parfaitement cohérente. La lumière qui est parfaitement cohérente et qui est même un des sujets de cette peinture. Parce que là, vous avez à peu près tous les états de la lumière sur un œil. Les reflets, les transparences, les textures. Regardez par exemple le jeu de perles ici. Les perles, dont ici vous avez les perles en volume, et vous avez l'ombre et la lumière projetées, et les diffractions, dispersions des perles ici. Vous avez ici le miroir où chaque petite coupelle ou chaque petit médaillon a sa propre lumière qui indique effectivement le reflet, avec un effet de saillant, plus ou moins. Et vous avez aussi l'ombre propre, l'ombre portée, le reflet, la couleur. Donc la lumière, on la voit à tous les moments. Alors là, je me permets de... J'ai trouvé un document d'assez bonne qualité. Juste une chose, alors justement, au niveau de la perfection comme finalité aussi, là, la perfection, chez les artistes italiens, ça sert surtout, par exemple, la géométrie, les mathématiques. Dans la tradition flamande, la perfection, ça sera surtout la maîtrise du geste et des matériaux. C'est le travail. Le travail est aboutir à une transparence parfaite, à l'oubli de la matière, comme une sorte de transsubstantiation de la matière peinture en lumière pure. C'est avant Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, plus tard, reprendra cette idée-là. Cette idée que finalement, la matière peinture doit guider vers la lumière, doit se faire oublier sa dimension matériologique pour n'être plus que lumière et pureté, et idéal. Alors là, vous voyez avec Van Eyck, il y a clairement quelque chose de cet ordre-là, puisque la lumière est effectivement le sujet. Alors tous les états de la lumière, c'est-à-dire sur le bois, sur le velours, sur le cuir, sur les tissus, sur la fourrure, et encore là, je zoome, mais on commence à avoir des pixels, mais si vous vous approchez du vrai tableau, vous ne voyez pas une trace de peinture. Moi, j'ai réalisé d'ailleurs que j'étais presbyte, donc voilà, déjà longtemps, en m'approchant d'une peinture flamande, et je m'approchais, j'avais l'habitude de m'approcher pour coller mon nez, et je m'approchais, je ne voyais plus rien, je me disais, suite, normalement, je dois voir quand je me rapproche, et là, je me suis dit qu'il fallait que j'aie des lunettes, mais c'est devant une peinture flamande, parce qu'effectivement, on pouvait s'approcher, et on collait son œil, on voyait toujours rien. On voyait pas de la peinture, on voyait que de la lumière. Alors, il y a une raison aussi à ça, c'est que Van Eyck, on dit, c'est lui qui a prouvé l'intérêt de la peinture à l'huile. C'est lui qui a prouvé l'intérêt de la peinture à l'huile. Jusqu'à présent, on peignait soit en fresque, soit ce qu'on appelle à tempera, c'est-à-dire avec une peinture à l'œuf, en fait, qui est quand même très élaborée, la peinture à l'œuf, elle est remarquable. Elle permet des transparences, des glacis, des liants différents, le vernis aussi, le blanc dilué fait un très bon vernis.